J'ai rappelé la dernière fois, en guise d'introduction, les grandes lignes de l'interprétation du moment présent à laquelle nous en étions arrivés et qu'il va s'agir de conclure au cours de cette année. Le peu que j'en ai dit voudrait au moins avoir rendu sensible ce premier trait de la conjoncture historique qui est la nôtre, qui est l'énorme retard de la pensée sur la réalité. Vous vous souvenez de la phrase fameuse de Montesquieu, « Aujourd'hui, nous recevons trois éducations différentes ou contraires, celle de nos pères, celle de nos maîtres, celle du monde. » Ce qu'on nous dit dans la dernière renverse toutes les idées des premières. Cette phrase reprend une saisissante actualité dans le contexte qui est le nôtre, une actualité assez comparable en effet à celle que pouvait ressentir un Montesquieu à son époque. Nous sommes sous le coup d'un complet renouvellement du monde, aussi bien d'ailleurs que des paramètres de notre expérience personnelle, et les outils intellectuels que nous avons reçus sont inopérants pour en rendre compte. Nous n'avons d'autre choix que de remettre ces outils intellectuels sur le métier. Tout est à refaire à la lumière des leçons que nous délivre brutalement, il faut le dire, ce monde inédit. Pas besoin, au passage, d'aller chercher plus loin le premier ressort de la crise de la politique. Nous subissons des situations que nous ne comprenons pas ou que nous comprenons mal et les instruments avec lesquels nous croyons les saisir les manquent manifestement pour l'essentiel. Gouvernants comme citoyens courent derrière des événements dont la marche échappe à tous. Or, la politique, c'est la possibilité d'un diagnostic collectif à peu près partagé et la possibilité d'une projection dans l'avenir sur cette base. Ces possibilités sont battues en brèche par l'illisibilité du présent et l'impuissance qui en résulte. Le programme qui en découle est clair. Retrouver quelques coups d'avance sur ce qui se passe. C'est la meilleure ambition que puisse se proposer une réflexion sur la politique aujourd'hui. Pour résumer sous forme d'une thèse, le diagnostic que je propose, la caractéristique fondamentale de la période actuelle, c'est la radicalisation structurelle de la modernité provoquée par l'aboutissement du processus de sortie de la religion. La proposition peut paraître bizarre, elle est effectivement contre-intuitive, elle se heurte à une objection massive qui paraît avoir le bon sens pour elle. Tout se joue d'une certaine manière sur le renversement de cette objection qui a les apparences de son côté, il faut le lui accorder. L'objection est la suivante. Que peut bien vouloir dire aboutissement ou parachèvement, comme on voudra, de la sortie de la religion dans un contexte où la religion ne jouait plus aucun rôle de définition et de légitimation de l'organisation collective. En admettant même l'idée de sortie de la religion, cette sortie n'était-elle pas, nous parlons du monde européen, d'ores et déjà acquise depuis un bon moment? Assurément, en effet, la sortie de la religion était faite dans la conscience des acteurs. Pour l'ensemble de ceux-ci, y compris les consciences croyantes dans l'Europe et plus largement l'Occident des années 1950 et 1960, il était acquis que l'ordre collectif ne relevait d'aucune justification transcendante, qu'il avait à s'expliquer de façon strictement immanente et qu'il était de part en part ouvert à l'action de la liberté humaine. Oui, donc, la sortie de la religion était pour l'essentiel acquise dans les esprits. Pour autant, elle n'était nullement achevée dans la structuration collective. De manière invisible pour les acteurs, l'immémoriale structuration religieuse continuait d'empreindre les principaux rouages de l'organisation collective et d'en conditionner le fonctionnement. Qu'il s'agisse du statut des personnes et de la relation des individus avec leur groupe, qu'il s'agisse de l'architecture temporelle de l'activité collective, les rapports entre passé, présent et avenir, ou encore qu'il s'agisse du fonctionnement politique des États-nations. Encore une fois, cette emprise de l'ordonnance religieuse était, pour le principal, invisible, inavouée, impensée, même si elle affleurait de ci, de là, comme il y a eu quelques bons observateurs pour le discerner. Mais il n'a été véritablement possible d'en prendre la mesure qu'après coup, une fois qu'elle s'est dissipée. On a pu s'apercevoir, avec le recul, qu'elle avait été le facteur déterminant d'opacité du XXe siècle européen. On ne la voyait pas, mais elle agissait dans l'ombre. Elle avait été le facteur en particulier du phénomène énigmatique entre tous qui en a été le centre de cette histoire, le phénomène totalitaire. Le décalage entre ces deux plans, le plan de la conscience des acteurs et le plan de la structuration collective, ressort au mieux dans ce phénomène inouï qu'a été le phénomène totalitaire, qui a vu les esprits les plus anti-religieux, consciemment, en appeler inconsciemment à la forme religieuse pour concevoir la forme de la société révolutionnaire du futur à laquelle il tendait. C'est ce phénomène qui mérite proprement d'être appelé religion séculière, en donnant à ce concept une acception rigoureuse, celle d'anti-religion religieuse. Anti-religion au plan conscient, religieuse malgré elle au plan de la figure assignée au collectif, des traits sont obligatoires sous lesquels se représentait une collectivité aboutie. C'est par rapport à cette insistance et à cette prégnance de la structuration religieuse, bien au-delà de la conscience des acteurs, qu'il faut situer l'événement décisif qui nous a fait changer de monde dans les années 1970. Cet événement en surface a l'aspect d'une crise économique. La crise économique déclenchée par le choc pétrolier de la fin 1973. Une crise, chacun le sait aujourd'hui, qui va déterminer une réorientation profonde de la marche des économies et du cours du capitalisme. En profondeur, cette crise recouvre un événement d'une nature fort différente, l'ultime tournant théologico-politique de la modernité. Le tournant de la liquidation des vestiges de la structuration hétéronome et de l'emprise que ces vestiges exerçaient à l'insu général, tant sur le fonctionnement collectif que sur l'idée de la collectivité dans ses différentes dimensions. Cette inconscience fait que ce tournant est passé inaperçu, à la différence des précédents. Ces tournants, dans l'articulation du théologique et du politique, ont été en général très bruyants dans l'histoire moderne, depuis le tournant inaugural, qu'on peut appeler le tournant Machiavel-Luther, des années 1510. Le nôtre, en revanche, a été plus que discret. Il a été parfaitement insensible, même si on peut, après coup, en reconstituer les éléments. Il n'empêche que ce tournant insensible a été, il doit être reconnu, comme l'événement majeur de notre histoire récente. Non seulement à l'échelle européenne, mais à l'échelle mondiale. Il est au vrai le tournant qui donne son sens dernier à la mondialisation. J'ajoute que pour un tournant de cette ampleur, il s'est déroulé de manière étonnamment rapide. On peut le tenir pour consommé avec les événements de portée mondiale, justement, de l'année 1979. Une année qui, à bien des égards, mérite d'entrer dans les annales. L'arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir au Royaume-Uni, l'année de l'élection de Ronald Reagan à la présidence des États-Unis, c'est-à-dire le signal de la réorientation néolibérale des économies et au-delà de la marge des sociétés. 1979, c'est aussi, à la fin de l'année, l'année de l'entrée des troupes soviétiques en Afghanistan. Signal du commencement de la fin des régimes dits du socialisme réel. Surtout si on les rapporte à cet autre événement qui passe complètement inaperçu à l'époque, mais de grandes conséquences, qui est l'engagement des réformes économiques impulsées par Deng Xiaoping en Chine. Premier pas vers le socialisme de marché, c'est comme ça qu'il s'appelle, chinois. Enfin, l'année de la révolution islamique en Iran. Signal de la vague fondamentaliste provoquée en retour par cette avancée de la sortie structurelle de la religion. Je ne m'y étends pas, je veux juste à ce stade planter un repère. Je pose l'hypothèse que cette série d'événements devient intelligible dans sa cohérence lorsqu'on la rapporte à ce foyer central constitué par l'ultime tournant théologico-politique de la modernité. C'est ce tournant qui a tout à la fois accrédité par ses effets, ce n'est pas son objet, l'idéologie néolibérale en décrédibilisant l'idéologie socialiste et en abolissant la possibilité même d'une religiosité séculière dans le monde occidental, tout au moins. C'est ce tournant, en revanche, qui a créé l'appel d'air des réaffirmations fondamentalistes dans des sociétés toujours gouvernées par la structuration religieuse et déstabilisées par l'irruption de la modernité occidentale. Le point essentiel, ce sont les effets structurels de cet ultime tournant théologico-politique. Il a libéré l'expression des éléments de la structuration autonome qui restaient contraintes et limitées par l'imprégnation de la forme hétérodome. Pour la première fois, cette structuration autonome a été mise en position de se déployer complètement. C'est la source des transformations fondamentales que connaissent l'organisation, la manière d'être, les modalités de fonctionnement de nos sociétés depuis 40 ans. Et des transformations qui les rendent méconnaissables, inintelligibles par rapport à l'entente intuitive que nous en avions peu à peu acquis précédemment. Le familier, qu'il s'agisse de politique, qu'il s'agisse de droit, qu'il s'agisse d'histoire, a été frappé d'étrangement. Il s'est mis à revêtir des traits que nous ne lui avions jamais vus. Il va nous falloir donc reprendre un à un ces éléments de la structuration autonome pour analyser leur métamorphose à chacun, mais aussi et surtout la configuration qu'ils dessinent ensemble. Quid du politique et de ce qui est devenu le politique quid de ce qui est devenu l'expérience historique, quid de ce qui est devenu l'organisation juridique, je ne parle pas de l'organisation judiciaire, dans nos sociétés, et surtout, quel monde ces éléments, en se combinant, dessinent-ils ? Nous touchons ici à un autre point crucial qui nous introduit en plein dans notre problème. Ainsi considérée, comme elle doit l'être, sous l'angle de l'architecture de l'être ensemble, la modernité autonome est plurielle dans sa composition. Elle passe par plusieurs vecteurs. Elle est faite d'éléments distincts dont la compatibilité ne va pas de soi, même s'ils lui sont tous indispensables. Ils doivent au final cohabiter d'une manière ou d'une autre entre eux, mais cette cohabitation peut se révéler problématique. Nous y sommes en plein, comme nous allons voir. Nous y sommes après bien d'autres expériences en ce genre. Voilà le problème constitutif de la modernité. Le problème inhérent à sa nature, qu'elle est vouée à charrier avec elle. Le problème de l'articulation de ces différents éléments. Autrement dit, pour introduire le concept adéquat, le problème du régime mixte qu'elle est condamnée à réaliser, mais dont la réalisation ne s'en montre pas moins d'une difficulté infinie. Et il s'agit d'identifier pourquoi. Nous reviendrons, comme il se doit, sur ce concept capital de régime mixte, que je me borne pour l'instant à inscrire à l'agenda de nos questions. C'est un concept qui a une tradition vénérable, comme vous le savez, il vient de l'Antiquité, mais il prend une acception nouvelle à la lumière de la situation qui est la nôtre, tout en nous permettant peut-être de récupérer beaucoup de sa signification traditionnelle. Ce problème d'articulation est au cœur du parcours de la modernité comme déploiement de ses composantes. Ce déploiement se présente en trois vagues, trois phases, où chaque composante émergente non seulement supplante l'autre ou les autres dans l'attention collective, mais porte la promesse illusoire de nous en débarrasser. Ce qui veut dire qu'il y a une méconnaissance de intrinsèquement attachée à la structuration autonome et à chacun de ses éléments. Autonomie structurelle, ce n'est pas transparence, c'est au contraire propension à la méconnaissance de soi. Première vague, donc, la vague politique, le surgissement de l'État dans son concept moderne, en lien avec cet autre concept moderne qu'est la souveraineté. L'État, c'est-à-dire l'instance qui prend en charge les conditions d'existence du corps politique selon ses raisons immanentes. Comme le dira Richelieu, tout cardinal qu'il était, le salut des États, il pense bien entendu à la différence avec le salut des âmes, est présent ou nul. Du point de vue de l'avènement de l'État, du point de vue de l'autonomie, équivaut à la découverte de ce que la raison d'être des corps politiques se situe exclusivement en eux. Cette existence est suspendue à l'exercice d'une volonté ordonnatrice qui leur prête vie et qui les maintient en vie. Ce qui justifie de parler d'un pouvoir cause de la société. Le surgissement du droit, pas le droit des juristes, le droit dans l'acception fondamentale qui regarde la légitimité, le surgissement du droit dans la foulée, deuxième vague, résulte d'une question ouverte par le politique et par ce travail de création continuée qui lui est attaché. Création au nom de quoi ? En fonction de quelle légitimité ? Étant entendu que cette légitimité doit elle aussi être immanente. Pourquoi l'État existe-t-il ? On a commencé par la fonction, on en vient à interroger la légitimité au nom de laquelle cette fonction s'accomplit. Une seule réponse possible, une fois le problème posé en ces termes. L'État n'existe légitimement qu'à partir de la mise en commun des droits détenus primitivement par des individus indépendants, également libres. Je passe sur les étapes de l'élaboration et de l'accréditation de cette doctrine du contrat social. C'est la partie de très loin la mieux éclairée du parcours moderne. Je passe dessus pour en arriver à la pointe la plus avancée de cette deuxième vague. Quand la problématique du contrat social devient celle des droits de l'homme, à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire quand ce principe de légitimité, tout à fait théorique au départ, devient dans l'esprit des acteurs la norme pratique de fonctionnement des corps politiques, le droit se charge de la promesse de nous débarrasser du politique. C'est l'enjeu de fond de la Révolution française, en tant qu'événement. Elle a été, je crois qu'on peut la résumer ainsi, l'expérience de l'impossibilité de dissoudre le politique dans le droit, qui débouche sur une restauration brutale du politique. Mais il faut comprendre la force de cette promesse. La promesse, c'est qu'il en est fini de ce pouvoir séparé de l'État, imposant d'en haut une contrainte dictée par les nécessités de l'existence collective, que les acteurs subissent sans la comprendre. Dans la nation souveraine établie par les droits de l'homme, où les acteurs sont devenus des citoyens reconnus dans leurs droits, le pouvoir est la chose des citoyens. Il est exercé en commun. Il s'exprime dans une volonté générale au travers de laquelle chacun prend sur lui en conscience les contraintes de l'existence collective qui n'ont plus à être déléguées à l'État. Les droits des citoyens offrent ainsi une définition complète de la condition collective, au regard de laquelle le politique fait figure de relique archaïque. En fait, nous en avons de nombreux témoignages, en fait, dans l'esprit des acteurs, un reliquat, un résidu de l'extériorité religieuse, que la lumière du droit des citoyens est appelée à dissiper. Là-dessus, troisième vague, l'histoire, qui va complètement bouleverser de nouveau les termes de cette problématique en dénonçant la naïveté de la problématique révolutionnaire. C'est acquis dès 1807 avec la phénoménologie de l'esprit et la lecture par Hegel de la Révolution française. Et cet élément social historique va se charger au fur et à mesure de son déploiement d'une promesse encore plus radicale, celle de nous débarrasser à la fois du politique et du droit. Ce que le droit n'a su faire, l'histoire va pouvoir le faire, et par la même occasion, l'histoire nous débarrassera du droit. Au point de vue abstrait du droit, dans cette acception fondamentale, droit des fondements en droit du corps politique, au point de vue abstrait du droit, l'histoire substitue le point de vue concret de l'autoconstitution matérielle et intellectuelle du monde humain. À l'idéalisme théorique, l'histoire substitue le pragmatisme de la réalisation effective. L'histoire amène avec elle la découverte de la société comme siège du dynamisme collectif, d'où le concept de social historique pour en nommer la réalité en action. Cette découverte de la société se prolonge dans une transformation politique majeure. À la primauté du politique comme cause de la société, se substitue la primauté de la société dont le pouvoir n'est qu'un effet. Soit ce qui mérite d'être appelé renversement libéral, donnant naissance à la structure libérale de la société de l'histoire. Dans ces deux éléments, indépendance de la société civile comme garantie du dynamisme collectif et gouvernement représentatif faisant du pouvoir l'instrument de la société. À ce point de développement, dont le principe est acquis en Europe à la mi-19e siècle, c'est le sens profond du Printemps des peuples de 1848, à ce point de développement, est-il encore besoin d'un pouvoir au vrai ? L'autonomisation de la société civile bourgeoise n'est-elle pas à regarder, au contraire, comme une première étape, faisant signe vers une seconde étape, bien plus radicale, qui verrait l'avènement d'une société purement sociale. Une société délivrée de la séparation d'un gouvernement comme de l'abstraction du droit, puisqu'elle serait faite de producteurs librement associés. Une association de producteurs, une libre association de producteurs qui serait la réalisation effective, à la différence du droit formel bourgeois, de la liberté et de l'égalité. C'est la lecture révolutionnaire de Marx, que je n'ai pas besoin de rappeler longuement. Pourquoi y a-t-il encore du politique, du pouvoir et des États ? Réponse, parce que la société est divisée en classes et que la classe dominante a besoin d'un instrument de coercition que lui fournit l'État, que lui fournit accessoirement le droit pour perpétuer sa domination. Supprimons la propriété privée, source de la division en classes entre propriétaires des moyens de production et prolétaires qui n'ont que leurs bras. Supprimons la propriété privée et au sein de la communauté humaine ainsi réunifiée par la propriété collective, il n'y aura plus besoin ni de pouvoir ni de droit séparés. Ce qu'il faut souligner, c'est que cette extrapolation radicale n'est que le passage à la limite du pragmatisme libéral. Pragmatisme libéral qui s'accommode, lui, d'une neutralisation du pouvoir et de sa séparation par son contrôle dans le cadre du régime représentatif, comme il s'accommode d'une neutralisation de l'abstraction du droit par sa correction concrète au sein, par exemple, en dernier lieu, de l'État social. Mais c'est le sens vrai de cette fameuse formule de Guizot, généralement très mal comprise et très mal notée aujourd'hui, enrichissez-vous. C'est-à-dire, bien sûr que le droit actuel est formel, mais par le travail et l'épargne, puisque c'est ses outils préférés, petit à petit, il prendra corps. Et nous allons vers une société où, par l'enrichissement général, ce droit, pour l'instant formel, deviendra un droit réel. C'est en ce sens-là qu'il faut parler d'une neutralisation de l'abstraction du droit par sa réalisation effective dans le temps. Du point de vue théorique, l'état social de la dernière période de l'histoire européenne est une actualisation de ce projet libéral de neutralisation de l'abstraction du droit par l'attribution de prérogatives concrètes à leur titulaire. En complétant les droits formels par des droits réels, par des droits sociaux réels, on n'élimine pas l'écart séparant la liberté et l'égalité théorique des individus de la réalité sociale, mais on en réduit les aspects les plus choquants d'une manière telle que l'abstraction du droit n'est plus un problème. En résumé, les libéraux, je parle des libéraux les plus conséquents, pas de la masse du personnel politique qui se réclame du libéralisme au XIXe siècle, les libéraux les plus conséquents se résignent à neutraliser ce que les révolutionnaires veulent abolir. Mais ils partagent les mêmes prémices, des prémices portées par leur foi commune dans les possibilités de l'élément social historique. La dynamique autosuffisante de la réalisation sociale historique dessine un avenir où il n'y aura plus besoin de politique et de droit, ou qui, du moins, en réduira le rôle au strict minimum. Ce que je viens ainsi de résumer d'une manière ultra schématique, est-il besoin de le dire, c'est le parcours moderne qu'on peut dire classique. Le parcours à la fois structurel et intellectuel, les deux ne se séparant pas, du déploiement de la structuration autonome jusqu'en 1914, disons. Après, les choses se compliquent. Et c'est dans cette complication que nous barbotons. Ce que ce parcours fait ressortir, c'est l'unilatéralisme ou les unilatéralismes successifs sous le signe desquels il a été vécu et pensé. À chacune de ces trois étapes, chacune de ces trois dimensions a tendu à se donner pour la clé complète et suffisante de l'ensemble des problèmes de l'existence collective. Après tout, ce parcours aurait pu se présenter comme une sédimentation progressive, ajoutant strate après l'autre, pierre après pierre à l'édifice. Pas du tout. Ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées. Chaque strate supplante et chasse là où les précédentes, en se présentant comme le moyen d'en faire l'économie, comme ouvrant une nouvelle époque, reprenant à zéro la redéfinition de la condition collective dans l'esprit des acteurs qui périment ce qu'on avait pu penser avant. En réalité, c'est un effet d'optique. Pouvons-nous analyser rétrospectivement ? Notre mérite n'étant que rétrospectif. Le droit supplante le politique et promet de nous en défaire. Mais il est appelé par lui, nous l'avons vu. Et il le suppose comme son support implicite. L'histoire périme d'un coup le politique et le droit en dessinant un avenir où l'on pourrait s'en passer. En fait, elle est portée par eux. Elle s'insère dans le cadre défini par le politique et elle a le droit pour base. Mais elle rend le droit et le politique invisibles dans l'esprit de la plus grande partie, en tout cas dans la partie dynamique des acteurs. Cet effet d'optique n'est pas contingent. Il est constitutif. Il relève d'une propriété intrinsèque de ses composantes. Il est de leur essence de se donner chacune pour une version exhaustive de la condition collective. C'est toute la difficulté de définir le régime mixte qu'elle appelle. Et la difficulté demeure, comme nous allons pouvoir le vérifier d'abondance. La difficulté a changé de nature par rapport à ce parcours classique du déploiement successif du politique, du droit et de l'histoire. Durant toute cette période, il est possible de raisonner en termes de retard des esprits sur leur temps et d'inertie des convictions. Quand le règne du droit arrive à l'ordre du jour, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, à l'époque de la Révolution française, force est bien de constater qu'il y a des esprits rétifs en nombre qui restent attachés à l'idéal de l'autorité monarchique et au culte de l'État. Mais il est somme toute facile de s'expliquer la chose par l'attachement au passé et l'incompréhension de la nouveauté de leur temps chez des esprits rétrogrades ou conservateurs. La scène se répétera un siècle plus tard quand des libéraux qui avaient été à la pointe de la cause du gouvernement représentatif et des libertés d'expression de la société se verront dépassés par les socialistes au nom du même dynamisme historique. Ils resteront attachés à leur liberté personnelle et à leur propriété privée. Là aussi, il sera aisément possible de se dire qu'ils sont dépassés par la marge de l'histoire et qu'ils en restent à un stade révolu. Sauf qu'il faudra bien finir par enregistrer le fait qu'au lieu de s'effacer avec le temps, ces partages perdurent. Ils s'actualisent. Les conservateurs se modernisent. Ils abandonnent le trône, l'autel, l'aristocratie, la monarchie, mais ils restent conservateurs. Les libéraux évoluent, mais ils demeurent. ils admettent que le suffrage universel, c'est mieux que le suffrage censitaire. Mais ça ne les empêche pas de rester libéraux. Les socialistes eux-mêmes changent considérablement, mais ils se maintiennent. En fait, ces trois grandes familles de pensée qui se subdivisent ensuite en formations politiques diverses, ces trois grandes familles de pensée, conservatisme, libéralisme, socialisme, entre lesquelles se partage l'espace de la politique, ne se contentent pas de refléter trois âges de la pensée. Elles sont permanentes. Et cette permanence répercute en dernier ressort les impératifs et les perspectives attachées aux trois composantes de la structuration autonome. Il y a un lien essentiel entre le conservatisme et le politique, entre le libéralisme et le droit, entre le socialisme et l'histoire. Le pluralisme idéologique de nos régimes, tel qu'il s'est installé pour de bon au XXe siècle seulement, et assez récemment dans le XXe siècle, lorsqu'il a fallu cesser de penser en termes de dépassement et d'élimination de l'adversité politique, le pluralisme a pour signification dernière de réfracter le problème de la démocratie comme problème du régime mixte. C'est-à-dire comme problème idéologiquement de la coexistence d'unilatéralisme rivaux et comme problème pratiquement de l'articulation entre les nécessités et les potentialités du politique, du droit et de l'histoire. Une précision de plus peut-être à propos de cette notion de pluralisme qui est employée de manière généralement relâchée. On ne met pas en prison les gens qui ne pensent pas comme vous quand vous avez la majorité politique. Bon, c'est pas ça le pluralisme, évidemment. Ou du moins, c'est son expression très élémentaire. Pluralisme signifie non pas simplement la reconnaissance de fait qu'il y a une diversité d'opinions dans la communauté, dans le corps politique, mais la reconnaissance en droit que cette diversité est intrinsèquement significative, qu'elle est fondée, qu'elle est légitime, ce qui est tout à fait autre chose. Et de ce point de vue-là, le pluralisme représente, de ce pluralisme de droit, représente une étape tout à fait récente du développement des démocraties européennes. Laborieusement acquise dans le cours difficultueux du XXe siècle. C'est qu'en effet, en 1914, on change de monde et d'expérience historique. 1914 étant une de ces dates charnières ou dates repères, comme 1789 ou 1848 que j'évoquais tout à l'heure, de ces dates charnières où se cristallisent sous forme d'événements des inflexions en gestation depuis un bon moment et destinées à faire sentir leurs conséquences pendant longtemps. 1914, dans la perspective dessinée ici, c'est la fin de l'histoire classique de l'Europe. si l'on met sous ce mot d'histoire classique le déploiement successif des trois éléments de la moderne, de la structuration autonome. Le moment où il se découvre dans le déchirement et la confusion que ces éléments sont présents et à l'œuvre, tous les trois simultanément, et qu'il faut faire avec, sans plus d'espoir, de substituer l'un à l'autre. Le moment, autrement dit, où la question du régime mixte arrive de fait à l'ordre du jour. De fait, mais certes pas en droit. Car tout ça se joue dans la plus épaisse obscurité. 1914, c'est le point d'explosion sous les traits d'une guerre atroce qui ne laisse guère le loisir d'y réfléchir, de la première grande crise de la démocratie. Sa crise d'installation ou de formation, comme on voudra. Avant d'y venir, pour éclairer un peu plus cette question du régime mixte de l'intérieur, quelques mots sur la nature de ces trois éléments de la structuration autonome et sur leur façon à chacun de contribuer à l'autonomie. Le politique regarde les conditions de possibilité d'une communauté autonome. Sa capacité de se définir et de se gouverner elle-même selon ses propres raisons. Le politique est réponse pratique à la question à partir de quoi, sur quelle base, avec quels moyens, quels instruments, une vie collective autonome est-elle concevable et praticable? La méconnaissance intrinsèque inscrite dans le politique, l'unilatéralisme dont il est spontanément porteur, consistant à prendre les conditions de possibilité pour des conditions de fonctionnement. L'existence, une fois assurée, d'autres questions surgissent. Existence, certes, mais au nom de quoi et comment? En vue de quoi? C'est à ces questions que viennent répondre le droit et l'histoire. Le droit est réponse à la question tout ensemble de la légitimité au sein de l'existence collective et de ses modalités. Exister, certes, mais comment ? Une communauté autonome est de nécessité celle qui reconnaît à ses membres le droit et les moyens de se diriger eux-mêmes en tant que base de la puissance collective de se gouverner. La méconnaissance attaché à cette manière d'être du collectif étant l'oubli des conditions de possibilité en amont et l'oubli des finalités en aval. Qu'est-ce qui permet à cette communauté des individus de droit d'exister ? À quoi est-elle destinée à se consacrer pour manifester, concrétiser son autonomie ? L'histoire est réponse à la question des finalités. Une société autonome est nécessairement une société de travail. Tournée vers sa propre création, vers son invention dans le temps. Une société qui s'organise en vue de son propre changement, par le travail sur elle-même, qui a politiquement le nom de réforme, ce n'est pas la seule forme, et un travail sur la nature environnante, qui est l'objet de la technique et de l'économie. Avec le péril de croire, c'est l'unilatéralisme spécifique inscrit dans la dynamique historique, avec le péril de croire que cette invention de l'avenir est une invention totale, dispensant de se demander quelles sont les conditions qui permettent à quelque chose comme une communauté politique d'exister et de se gouverner, ce qui est encore un autre problème, comme si son existence était une donnée naturelle. Ou de se demander selon quelle modalité elle se doit d'exister si elle prétend à l'autonomie. Voilà comment se pose de manière très générale le problème du régime mixte qui est devenu le nôtre en fonction du déploiement de cette structuration autonome. Le déploiement structurel d'une communauté humaine autonome passe par ces trois canaux, tous trois indispensables et tous trois nécessairement liés en dernier ressort, mais qui tendent chacun à une hégémonie oublieuse des autres. La cacophonie démocratique, qu'on ne règle pas avec des règles de la bonne communication, tenant à cette pluralité légitime de points de vue qui doivent cependant, in fine, s'articuler. Revenons maintenant à 1914 et aux termes plus précis dans lesquels le problème se pose alors. Compte tenu du degré de développement de ces trois vecteurs de la structuration autonome et des modalités selon lesquelles à la fois ils se combinent et se combattent. Quelle configuration d'ensemble dessine-t-il Et qu'est-ce qui fait de cette configuration une configuration de crise de la démocratie? Une crise de naissance, pour ainsi dire, de la démocratie. Et pourquoi démocratie, pour commencer? Parce que nous sommes, dans ce moment 1900, au moment où, en Europe, cette notion de démocratie commence à prendre véritablement corps. Commence. Contre des restes d'anciens régimes toujours vivaces. Rappelons qu'il y a, en 1900, deux démocraties, deux républiques de ce nom en Europe, la France et la Suisse. Des restes d'anciens régimes que la Grande Guerre va justement balayer. Du point de vue du 1914-1918, du point de vue de la démocratie en Europe, c'est le moment de consécration de la démocratie à l'issue du conflit. Cette poussée démocratique s'exprime élémentairement dans l'avancée du suffrage universel. À l'ouest du continent, le principe du suffrage universel masculin est acquis à peu près partout, à peu près seulement, à la veille de la guerre. Et partout, la question du suffrage universel féminin est à l'ordre du jour, avec des fortunes diverses quant à la réalisation de cette exigence. Mais quoi qu'il en soit, le principe est suffisamment entré dans les mœurs et dans les esprits pour qu'on puisse parler de l'ère des masses. Du point de vue structurel que j'ai privilégié, nous sommes en 1914, au bout, en 1900 plus largement, au bout du déploiement de l'élément social, historique et de ses potentialités directes. Cela se traduit dans cet événement intellectuel dont nous n'interrogeons pas suffisamment la portée, qu'est la pleine clarification et intronisation du concept de société. Un concept dont on ne saurait trop souligner combien il est récent quand nous le projetons naïvement et anachroniquement sur les sociétés du passé. Nous ne pouvons pas nous empêcher de parler ainsi, mais il faut être conscient de ce que la notion n'existe dans son plein développement que depuis un peu plus d'un siècle. Consécration du concept de société, cela donne d'un côté l'institutionnalisation de la discipline sociologique, cela donne de l'autre côté le surgissement de la question sociale au centre de l'espace politique avec la montée en puissance du mouvement ouvrier socialiste et de ses organisations de masse et de classe. Sur le plan idéologique et politique, ce mouvement s'exprime dans l'évolution du libéralisme dominant vers un libéralisme démocratisé. Le libéralisme initial était très généralement censitaire. Et il faut bien comprendre pourquoi. Sa philosophie de l'individu et de la représentation était pénétré d'esprit hiérarchique dans la force structurelle du terme. Le principe de la représentation donne la primauté à la société, mais de quoi est composée la société ? D'individus, certes, mais qu'est-ce qui fait un individu ? Qu'est-ce qui fait réellement un individu ? Tout est là. Pour ces libéraux des années 1820-1830, et ça continuera bien au-delà, les vrais individus sont ceux qui ont les moyens de leur autosuffisance ou plus simplement de leur indépendance. Ne sont pas individus les dépendants, ceux qui sont suspendus à la volonté des autres et qui ne peuvent donc manifester en politique un point de vue autonome. Ceux qui ont les moyens de leur autosuffisance, c'est ceux qui disposent à la fois de la propriété et de l'éducation, des lumières que permet la propriété, qui en font des participants de plein exercice du processus de décision collective. Mais cette restriction censitaire va être battue en brèche par rien d'autre, bien sûr, les luttes politiques autour du suffrage universel, mais derrière, du point de vue de la légitimation de cette revendication, ce qui va porter la revendication du suffrage universel, c'est rien d'autre que cette orientation historique elle-même dont se réclament les libéraux. Ils vont être battus sur leur propre terrain. En effet, on peut dire que l'orientation historique est intrinsèquement démocratique. En ce sens qu'elle suppose, par essence, le concours de tous. L'orientation historique est l'idée d'un mouvement auquel tous contribuent, si humblement que ce soit. Dans la société de l'histoire, en d'autres termes, il n'y a que des acteurs qui doivent être représentés dans leur ensemble, car c'est la somme de ces contributions, humbles, minuscules, insignifiantes pour certaines, qui fait le dynamisme collectif. C'est ce que traduit, d'ailleurs, exactement la notion de masse. Et la formule qui explicite la légitimité de ce rôle des masses, ce sont les masses qui font l'histoire. C'est ainsi que la logique de ces prémices amène le libéralisme à s'ouvrir et à se démocratiser. Ce dont le républicanisme en France, je pense en particulier à sa version radicale socialiste, ou en Angleterre au même moment, ce qu'on appelle les nouveaux libéraux, donne une assez bonne traduction. Pourquoi crise de la démocratie maintenant ? Et pourquoi crise du libéralisme ? Car, nonobstant cette ouverture démocratique, le libéralisme est mis en crise par la configuration structurelle qui se dessine de manière sous-jacente à cette charnière des deux siècles, le XIXe et le XXe siècle, et qui amène obscurément, très obscurément, le problème du régime mixte des modernes à l'ordre du jour. Cette configuration se caractérise par le retour du politique et dans une moindre mesure du droit. Entendons-nous, évidemment, sur ce que retour veut dire. Le politique ne s'était pas absenté non plus que le droit. Il ne comptait pas du point de vue de la conscience des acteurs et de la visibilité collective. Ils étaient objectivement présents dans le paysage, mais l'histoire, aux yeux de la grande majorité des acteurs, les comprenait dans le double sens du terme. Elle les incluait comme ses prolongements naturels, si histoire donc politique et droit, et elle en rendait compte. Elle disait, elle était supposée dire pourquoi ils existaient et en quoi ils consistaient. Le politique et le droit étaient subordonnés à l'histoire. L'histoire qui rendait compte du droit pragmatique des acteurs et de leur nécessaire liberté. Pas besoin d'aller, c'est ce que répètent tous les auteurs importants du XIXe siècle à propos du droit. Bien sûr qu'il faut donner de la liberté aux acteurs, mais pas parce qu'ils ont des droits naturels, parce que leur liberté est utile à la dynamique collective. Bien sûr qu'il faut garantir ces droits, mais pour des motifs qui sont inhérents à l'historicité. De la même façon, au nom de l'histoire, on reconnaissait l'existence de l'État comme pouvoir représentatif. Qu'est-ce qu'il y a dans l'État ? La représentation des besoins de la société et rien d'autre. La nation, eh bien oui, c'est le peuple des citoyens pourvus de droits. Aucun mystère. On pouvait tout tenir des composantes de la vie collective à partir du point de vue de l'histoire. Retour du politique et du droit veut dire que la maturation structurelle qui se poursuit dans les profondeurs, à bas bruit, derrière et en liaison avec le déploiement de l'élément social historique qui occupe le devant de la scène, les fait surgir dans le paysage comme des entités à repenser par rapport à la formule avec laquelle on croyait les dominer. Ils se présentent sous des traits et avec une consistance qui n'entre plus dans le cadre où le libéralisme dominant les enfermait. Ils sont manifestement autre chose que ce que ce libéralisme, selon l'histoire, peut en dire. Il est débordés par eux. La crise du libéralisme est d'abord une crise de plausibilité cognitive au regard du monde qu'il a porté sur ses fonds baptismaux. Il est dépassé par sa créature qui lui échappe. Il ne rend plus compte de manière convaincante du monde social tel qu'il est et tel qu'il devient. Le symptôme de cette crise, cela va être le développement, dans les années 1900, d'idéologies extrêmes qui contestent radicalement le libéralisme dominant sur sa droite et sur sa gauche. Au-delà des contestations qui existaient et qui pouvaient venir ou du conservatisme traditionnaliste à droite ou du socialisme à gauche. ces idéologies extrêmes au nom nationalisme à l'extrême droite et ce qu'on peut appeler, faute d'un meilleur terme, révolutionnarisme à l'extrême gauche. Nationalisme et révolutionnarisme qui s'appuient l'un et l'autre sur les ressources inédites du politique pour renouveler l'un le projet conservateur et l'autre renouveler le projet socialiste. Des idéologies extrêmes auxquelles les événements vont se charger d'apporter une caution formidable. 1914-1917, deux dates qui vont dominer toute l'histoire ultérieure du XXe siècle, deux dates autour desquelles le nouveau de l'époque coagule, en mettant à l'ordre du jour, au premier plan, ces idéologies qui restaient, en dépit du ralliement de nombre d'esprits à leur thèse, relativement minoritaires dans le paysage à la veille de la guerre mondiale. 1914, le déclenchement du conflit mondial, si l'on en cherche le sens au-delà des péripéties, des batailles. 1914, c'est la vérification de l'efficacité du politique. D'une manière qui déborde entièrement ce que le libéralisme peut en dire. D'un côté, l'événement atteste la capacité de mobilisation des nations. De l'autre côté, il atteste la capacité d'organisation des États qui vont trouver dans leurs moyens nouveaux les ressources pour perpétuer, moyennant un effort gigantesque, un conflit durant des années qui prend des proportions gigantesques, celles que vous connaissez. 1917, la révolution bolchévique en Russie, qui légitime irrévocablement le révolutionnarisme qui restait jusqu'alors largement minoritaire et qui valide la version de l'idée socialiste apportée par le léninisme. Léninisme, ce n'est pas le sujet, mais je le souligne au passage, dont il faut souligner l'extrême originalité, l'extrême rupture par rapport au marxisme, au-delà de ce doublet devenu automatique, qui est une mystification, qui s'appelle marxisme-léninisme. C'est sous le signe de la révolution, bel et bien, que va se développer la crise du libéralisme au XXe siècle. Mais revenons à cette crise de crédibilité cognitive du libéralisme. Une idéologie fonctionne et domine parce qu'elle s'impose comme la plus plausible au regard des conditions générales de fonctionnement de la vie collective. Cette crise de crédibilité est d'abord une crise politique du gouvernement représentatif qui a pris dans l'époque le visage du parlementarisme. Parlementarisme, entendons, la traduction de la souveraineté nationale dans la souveraineté parlementaire. Une égalité qui ne va pas de soi et la France est de ce point de vue le laboratoire privilégié pour observer le phénomène, parce que c'est là que cette doctrine de la souveraineté parlementaire a trouvé son expression la plus rigoureuse dans le Parti républicain français. Eh bien, ce parlementarisme, du point de vue des idéaux du gouvernement représentatif, il a un triple inconvénient. Il représente très mal. Il gouverne pas. Il est entaché d'une espèce d'impuissance constitutive. Et enfin, point encore plus déterminant en profondeur, il est d'autant plus scandaleux qu'il ne gouverne pas, qu'il a à sa disposition, avec l'État nouveau qui se met en place dans cette période, un instrument de pouvoir qu'il ne contrôle pas. Il ne s'en sert pas, mais il ne contrôle pas non plus. Tout ça fait désordre, pour le moins. Et l'urgence de trouver un régime politique en rupture avec le parlementarisme est l'un des premiers points à l'agenda de tous les esprits, même simplement réformateurs de l'époque. La crise du libéralisme a ensuite le visage social de incarné par le surgissement de la question sociale au centre de la vie publique. Question par rapport à laquelle il est impuissant, il n'en rend pas compte et il n'a pas de remède à lui fournir. La politique représentative suppose la possibilité d'établir un consensus majoritaire au sein d'une communauté politique. La lutte de classe qui se matérialise avec l'affirmation des organisations ouvrières met en échec la possibilité de la formation d'un tel consensus. Et ce n'est pas avec de sympathiques appels à la concorde sociale et à la collaboration des classes qu'on se tire de la difficulté. Seules les idéologies extrêmes ou radicales ne se développent pas par hasard, elles s'appuient sur ce fond, les antagonismes qui divisent réellement la société effective appelle une transformation en règle de ses conditions de fonctionnement. Donc on voit très bien dans ce contexte comment l'idée de révolution acquiert à la fois un nouveau lustre et un nouveau contenu. Mais la crise la plus profonde, la crise non dite, mais intensément ressentie par les acteurs de l'époque, les témoignages ne manquent pas, et d'un autre ordre. La crise la plus profonde est celle de la forme collective, dont cette division de classe est la plaie la plus vive. La crise de la forme religieuse à l'intérieur de laquelle s'était inscrit tout le déploiement moderne et le déploiement des composantes structurelles de l'autonomie. La forme religieuse, je l'évoquais dans la séance précédente, peut la résumer dans une formule très simple. L'un par l'autre. L'unité collective, l'unité de la communauté humaine par la subordination à l'altérité surnaturelle. Une altérité concrétisée par les différents rouages que nous avons vus, la hiérarchie, la tradition, la domination. Le déploiement moderne s'effectue sous le signe de la production de cette unité par les moyens de l'autonomie. Les moyens de l'autonomie, c'est, par exemple, en premier lieu, l'autorité de l'État comme et de son pouvoir d'imposition comme moyen de réaliser, par l'obéissance des sujets du pouvoir, cette unité de subordination. Mais l'unité collective, on peut en trouver le siège dans le consentement des individus, dès lors que leurs droits sont reconnus, dans l'accord du droit et de la raison. On peut trouver le principe de l'unité collective encore dans l'harmonie des libertés productrices du devenir. Le libéralisme classique, celui dont j'évoque la crise, est une philosophie de l'unité collective par les libertés individuelles. Grâce au contrat qui lie des personnes, grâce au marché qui équilibre les offres et les demandes, qui harmonisent les intérêts dans la vie économique, grâce à la représentation qui unit le peuple et le pouvoir, ou grâce encore, élément non négligeable dans le contexte du XIXe siècle, grâce à la science qui offre un étalon sûr pour réaliser l'accord des esprits. C'est cette promesse d'unité qui est de toutes parts battue en brèche par la société réelle qui naît du mouvement de l'histoire et des libertés. Le politique dément cette union du peuple et du pouvoir. La société se révèle divisée en classes, loin de l'harmonie ou de l'accord des intérêts. Elle éclate en activités diverses, division du travail social qu'on se met à penser sérieusement à l'époque, qui paraît créer une collectivité où il n'y a même plus de langage commun entre les acteurs. L'histoire elle-même échappe à la prise de ceux qui la font. Cette crise de l'unité promise par le libéralisme et démentie par les faits est en même temps, on le comprend aisément, une crise de la démocratie, entendue dans son sens le plus profond, puisqu'elle débouche sur une société ingouvernable, une société immaîtrisable. La crise du libéralisme est une crise de l'autonomie, en ce sens, puisque les éléments qui sont supposés la concrétiser n'empêchent pas que le produit final échappe à la prise des acteurs. Ce que l'acte d'accusation, qui est très communément dressé dans ce moment 1900, à l'égard du libéralisme en position gouvernante, est de créer une société impossible à rassembler et à conduire. C'est en cela proprement que consiste la première grande crise de la démocratie comme crise du régime mixte, crise d'une société dont les éléments se désaccordent dans des termes qui ne permettent pas de les réunir. Voilà en regard de quoi le projet révolutionnaire va se trouver être, au sortir du premier conflit mondial, la seule perspective admissible au regard de cette situation vécue comme dramatique, la seule issue permettant d'envisager la restauration d'une forme collective viable. C'est de cela que va être faite l'histoire du XXe siècle. Et c'est cette histoire qu'il nous faudra essayer de comprendre pour cerner en regard le moment où nous sommes dans sa différence, non pas dans la récurrence d'une formule qui reviendrait périodiquement pour menacer la démocratie. Nous pouvons à nouveau parler nous verrons pourquoi, une grande crise de la démocratie, mais elle est évidemment à concevoir dans des termes qui nous mènent très loin de cette première.
Je voudrais revenir sur la première partie de votre exposé d'aujourd'hui, sur le décalage entre la conscience des acteurs et la structuration collective. Alors, vous dites que, en fait, quand il y a une sortie de conscience des acteurs et alors que la structuration reste encore dans la structuration commune, donc on est en face du phénomène totalitaire. Mais ce décalage existe aussi dans d'autres sens, dans les pays où la conscience des acteurs reste très attachée à la religion, alors que la structuration religion est sortie. On est dans la sortie, par exemple, la Turquie, ou bien en Égypte, ou bien pourquoi pas en Iran. Alors, dans ces sociétés, on a un décalage dans d'autres sens, et ce décalage pourrait parfaitement expliquer le phénomène de l'extrémisme religieux.
Je pense.
En quelque sorte, évidemment, l'extrémisme religieux n'est pas le totalitarisme, comme beaucoup ont dit, mais c'est un phénomène totalement symétrique. Ce sont les religions anti-religieuses, ce sont les dignitaires religieux qui disent ça, d'ailleurs, comme moi.
Alors, ils le disent carrément.
Carrément.
Ah, mais ils ont. Ça honore leur lucidité.
Voilà. C'est pas du tout religieux, c'est écran. Alors que, et si on établit l'analyse de l'extrémisme religieux sur ce décalage, on peut parfaitement expliquer que ces mouvements ne sont pas des simples réactions à la modernité. Ce sont des fruits de la modernité, en quelque sorte. Et ce sont les fruits de la modernité dans le sens où on peut dire que c'est même la preuve de la sortie de la religion dans cette région du monde.
Je pense en effet que ce que ce n'est pas une question, c'est un prolongement de ce que j'ai dit que je ne peux qu'approuver. Donc ça me semble très juste et en particulier répondre sur le fond à la question sans arrêt récurrente de l'analyse des fondamentalismes religieux comme des phénomènes totalitaires de notre temps. Troisième totalitarisme, etc. C'est complètement faux. Parce qu'en effet, ça répond à il y a une matrice complètement différente et à beaucoup d'égards, vous avez raison, inverse de celle qui a prévalu à l'affirmation des phénomènes totalitaires dans le cadre européen. Je pense que c'est, de ce point de vue-là, très utile de raisonner dans ces termes. Alors, en effet, ce sont le décalage entre la conscience et la structuration collective se présente exactement à l'opposé, dans les deux cas. Et ça explique beaucoup de dimensions très concrètes de la nature de la revendication de ces formations religieuses, politiques. On a du mal d'ailleurs à les désigner parce que l'ordre des facteurs n'est pas clair dans la manière dont ils se composent, alors qu'il est très clair dans les phénomènes totalitaires.
On peut être assez optimiste en disant que de la même façon que le totalitarisme était un passage obligé dans les sociétés européennes, le fondamentalisme aussi est un passage obligé pour les pays islamiques.
C'était pas. Entendons-nous bien sur le passage obligé. Premièrement, la question totalitaire a été partout à l'agenda dans les sociétés européennes. Il y a même un parti fasciste en Angleterre, ce qui est assez invraisemblable, mais c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que les totalitarismes se sont imposés partout. Ils se sont même imposés dans des contextes extrêmement particuliers, dans une conjoncture très particulière. Il y aurait eu une conjoncture totalitaire en Europe, quoi qu'il arrive, et quand bien même, par exemple, il n'y aurait pas eu la Première Guerre mondiale. Mais ça ne veut pas dire que c'était un passage obligé. La preuve en est, c'est qu'il y a un certain nombre de pays qui ont eu le bonheur d'y échapper, quand même. Et ensuite, qu'on peut analyser les circonstances qui ont précipité la cristallisation de ces phénomènes. Je dirais de la même façon qu'il y a une conjoncture fondamentaliste, en effet, dans une grande, en particulier dans le monde musulman pour des raisons très particulières, ça ne signifie pas que toutes les sociétés musulmanes devront passer tôt ou tard par un épisode de type fondamentaliste. Enfin, on n'a pas à leur souhaiter, mais ça, c'est pas le problème, ça pourrait arriver quand même. Mais ça ne me paraît pas une nécessité. Là aussi, c'est dans des conditions très spécifiques à chaque fois qu'on voit ces radicalisations religieuses et politiques se manifester. Donc, il n'y a pas de... Mais ça veut dire qu'il y a en effet une conjoncture fondamentaliste. Ça, oui. Je crois qu'on peut le montrer assez bien avec des degrés de radicalité variables selon les contextes.
Oui. Je voudrais sortir peut-être un peu du cadre de votre exposé et franchir le pas jusqu'à l'art. Est-ce que vous avez réfléchi à la question, je n'en doute pas, que le développement de l'art moderne, qu'on appelle l'art moderne ou post-moderne, en fait, on peut le dater du début des années 1900 et non pas de la guerre 14, mais
du
mouvement d'abstraction, des mouvements sur la musique etc. sont nés avant 14.
Oui, c'est 1900, c'est le...
Dans cette période-là.
14, c'est la visibilisation de ce qui est en gestation dans l'espace culturel, intellectuel, européen, depuis le tournant 1900, il est là, c'est sûr.
Alors, d'où ma question, est-ce que la naissance de ces mouvements qui font sortir l'art totalement de l'académisme, vient renforcer votre thèse et comment vous l'interprétez, ou est-ce qu'il y a un décalage temporel
Je crois tout à fait qu'ils entrent dans la même conjoncture, et je crois en particulier qu'on ne peut pas comprendre l'art moderne, notion élastique mais commode, en dehors de la formation des religions séculières. C'est un avatar de la religion de l'art qui existe bien antérieurement, mais qui trouve là vraiment son débouché et son expression artistique pleine et entière. Alors, après, il faut analyser domaine par domaine la manière dont cela se manifeste. Et je crois que l'un des intérêts de la perspective, c'est de montrer, c'est de permettre de bien périodiser l'histoire de l'art au XXe siècle et de comprendre pourquoi la sortie de cette conjoncture des religiosités séculières a été un événement foudroyant pour l'art dit moderne, qui depuis lors a perdu son ressort et sa capacité inventive pour devenir quelque chose qu'il est très difficile d'appréhender. Mais on a vraiment un moment bien particulier où l'expression artistique, d'ailleurs, se veut elle-même inscrite dans le mouvement de l'histoire. Ça ne veut pas du tout dire que les artistes sont nécessairement engagés, ça n'a rien à voir, ils peuvent l'être subjectivement, ça n'a aucune importance, mais l'expression historique elle-même est un élément clé de l'invention historique. C'est d'une certaine manière l'art saisi par l'histoire, l'art moderne, d'abord saisi par la conscience historique puisqu'il se définit par la rupture de codes historique hérité, c'est ça l'anti-académisme, c'est la conscience historique dans l'art. Ce qui s'est fait ne doit plus être fait. Ce principe de rupture. Et en même temps, ce qui s'invente en rupture avec les codes hérités est une participation imminente et reconnue comme telle par l'ensemble des acteurs historiques d'avant-garde au mouvement de la création historique en train de se jouer sur la scène politique et social, indépendamment de l'art. Il contribue à ce mouvement de sa position, sans devenir justement ce que sera l'hérésie réaliste socialiste, par exemple. Ça, c'est un dévoiement, c'est pas ça. Mais Picasso Je cherche la formule que j'ai entendue une fois Pierre Dex formuler. Picasso était plus communiste que les communistes, quelque chose comme ça. Mais ça, oui, c'est-à-dire son art avait une portée créatrice du point de vue du mouvement révolutionnaire plus grande encore que tout ce que pouvait réaliser dans son ordre. Mais c'est ce lien qui s'est défait et qui fait qu'aujourd'hui, ça sert à quoi ? En gros, à revitaliser les friches industrielles. C'est une vocation sympathique, mais c'est pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on y avait mis.
Une question ponctuelle à propos du tournant. Vous avez évoqué l'année 1979 et dans l'accumulation de faits, vous mettez la révolution islamique d'Iran. On voit très bien comment elle entre dans votre accumulation. J'aurais plutôt dit comme au contraire.
Eh bien non, mais le contraire, c'est là où il faut un raisonnement dialectique, comme on aurait dit jadis. Je ne la mets pas sur le même plan, mais ce dont cette révolution témoigne, c'est de la force du choc de la modernité mondialisée sur une société secouée dans ses fondements par cette nouveauté en train d'advenir et qui réagit dans les termes dont on parlait. Elle n'est pas, évidemment, les possibilités de discussion entre Margaret Thatcher et l'imam Khomeini devaient être assez réduites dans les deux sens. Mais ils sont bel et bien strictement contemporains. Néanmoins, dans l'opposition. Voilà, je crois qu'on peut le montrer assez précisément du point de vue de la chronologie des phénomènes et de la façon en particulier, mais on va y revenir par la suite, de ce qui n'est pas, ce qui reste inanalysé essentiellement dans la conjoncture actuelle, c'est ce que représente le choc de la mondialisation pour l'ensemble des sociétés, pas seulement sur le plan économique, ça on ne voit que mais sur un tout autre plan, et comment ce choc a une ampleur tout à fait particulière pour des sociétés dont la structure explicite reste largement religieuse et traditionnelle. Ça, je pense que c'est ça. Et l'Iran, de ce point de vue-là, a été une sorte de point de rupture extraordinairement révélateur.
Cet état pétrolier,
Oui,
c'est un... pétrolier, c'est un bourdin.
C'est, oui, c'est comment... le pétrole et le Coran font pas nécessairement un ménage harmonieux. Voilà, on peut résumer ça comme ça.
Avait proposé, c'est d'une certaine façon, une évolution historique du monde de la chrétienté. Le monde de l'islam, lui, n'est pas rendu au point où le monde de la chrétienté est rendu. Non.
C'est évident, oui,
et donc,
bien sûr.
Ce que vous disiez à propos de l'Iran, c'est le décalage temporel qui s'impose pour apprécier ce qui est observé et décrit descriptive en terre d'islam, mais qui ne concerne plus directement, sauf par les interactions en retour, avec le monde de la chrétienté.
Oui, non, tout à fait d'accord, mais ces interactions vont très loin, puisque la signification de, justement, de la mondialisation, c'est que nous sommes tous dans le même, embarqués dans le même cadre. Ça change complètement la manière dont fonctionnent ces interactions. Voilà.
J'ai une curiosité par rapport à la situation en Russie et en Ukraine. Est-ce qu'on peut appliquer le même mode de raisonnement? Rapidement, j'entendais l'autre jour Alain de Benson dire que la Russie, c'est un peuple, une religion et pas une nation. Or, ça a été une religion et une société totalitaire, donc une religion séculière, donc quand même dans la modernité. Or, bon, il y a des phénomènes très vifs de panslavisme, de retour à l'hétérodoxie et donc un retour en arrière vers une prégnance très très forte de la religion. Est-ce que ce à quoi on aboutit aujourd'hui, c'est-à-dire un durcissement, c'est ce choc aussi de la modernité et de l'hétérodoxie?
Là, il faudrait pouvoir mettre longuement à plat tous les éléments d'une situation très compliquée. Et on ne peut pas rabattre de façon sommaire sur des paramètres fondamentaux, mais qui supposent de s'en faire, de t'en ajouter beaucoup d'autres. Alors, premièrement, n'exagérons pas le degré de pénétration de la religion orthodoxe dans la vie russe aujourd'hui. On a quelques statistiques est-ce que ce retour de la religion se traduit très significativement dans les mœurs de russes? Ça paraît pas évident. Pas plus, mettons, d'ailleurs, le phénomène n'est pas absolument isolé. Si vous prenez la Pologne, vous auriez, mutatis mutandis, quelque chose d'équivalent. Les Polonais sont officiellement catholiques, mais ils ne se conduisent pas vraiment comme tels. Bon.
Ça remet en question quand même les dogmes.
Ça aussi, c'est compliqué.
Dans l'action, oui. Mais mentalement, ils ne le font
pas. Non, mais justement, c'est juste. Mais ils mettent. Justement, ça nous oblige à considérer un usage de la religion qui est assez nouveau. Il a des racines plus anciennes, mais il a des raisons d'être tout à fait spécifiques aujourd'hui, d'être essentielles. C'est l'usage identitaire des religions. Alors cet usage identitaire, il a une tradition qui tient aux nationalités opprimées. Les Irlandais catholiques, les Polonais catholiques aussi. C'est des peuples qui ont maintenu leur identité historique au travers de la religion. Le cas de la Russie est complètement différent. Le cas de la Russie, c'est un pays qui se retrouve avec un blanc de 80 ans d'histoire. Nous, on est quoi, nous? Vous ne pouvez pas demander raisonnablement à des Russes de se dire qu'ils sont d'anciens staliniens ou d'anciens marxistes-léninistes. Ça ne fait pas une identité collective très consistante. Qu'est-ce qui reste? La tradition orthodoxe, qui devient un identifiant collectif. Mais c'est un usage très particulier de la religion qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'est la structuration religieuse qui, dans le monde soviétique, a été passablement amochée. Ça, ils n'ont rien réussi, ou à peu près, sauf ça. Si vous regardez ce qu'est une communauté paysanne russe aujourd'hui par rapport à ce que la bonne littérature, d'une sur le mire, etc., nous a appris autrefois, c'est assez sidéralement opposé. Et effectivement, le régime bolchevique a détruit la structure méthodiquement, au-delà de toutes ses espérances et par des voies auxquelles il ne s'attendait pas, tout ce qui pouvait rester de structuration religieuse dans cet espace-là. La Russie n'est pas une nation, oui. Elle est un empire. C'est ça la tradition historique russe. Et le problème principal posé aux Russes aujourd'hui, c'est la conversion d'un empire en nation. Tâche toujours extrêmement difficile, problématique. Nous en avons eu un exemple tout près de nous qui nous a posé quelques questions, qui est la transformation de l'empire allemand en nation allemande. Ça fait de la casse. Et c'est un cas de figure qui se retrouve aujourd'hui à une autre échelle, dans un autre contexte, avec la Chine. Un empire qui devient une nation. Mondialisation oblige. Un empire, il a besoin de penser que où il essaie pour dominer ce qui l'entoure, où il est tout seul, ce qui était Le reste, c'est des PNQ sans intérêt. La Chine doit devenir une nation. Elle est engagée dans ce processus comme les Russes. C'est ça qui me paraît le déterminant principal de la situation dont les diplomates occidentaux n'ont pas l'air de franchement s'apercevoir, ce qui nous, là aussi nous crée quelques problèmes.
Et simplement une remarque sur la Russie, si vous permettez. Poutine constamment refuse l'idée que la Russie devient une nation, parce que précisément, il affirme toujours qu'elle est composée de différentes nations.
Ah. Ça, bon.
C'est pas la question.
C'est une nation multinationale, c'est assez compliqué.
Mais je voulais vous demander sur l'aspect, vous avez parlé de la crise de la démocratie, mais également de la crise du parlementarisme. Sur le plan de la chronologie, dans l'entre-deux-guerres, comment est-ce que, notamment en France, à quel moment ça dure ? Parce que c'est très très connu dans les années 30, évidemment, c'est un des thèmes qu'on peut défendre. Est-ce que dès les années 20, les critiques que vous évoquez, l'impuissance, etc., est-ce que c'est quelque chose qui, globalement en Europe et notamment en France, est extrêmement présent dans le débat politique ?
Alors, c'est spécialement présent en France. La France de l'époque est la capitale de l'antiparlementarisme. Mais si vous prenez un pays comme l'Italie, il a une tradition très, très parallèle. Mais c'est un phénomène européen qui s'exprime différemment selon les contextes. Le Parlement anglais n'est pas le Parlement français. Les pays ont des... Le Reichstag allemand, il a un pouvoir très limité, ce qui n'empêche pas un très virulent anti-parlementarisme. Enfin, vous voyez, c'est des contextes très différents. Mais il est bien plus précoce. En France, c'est on peut dater très facilement les débuts de l'anti-parlementarisme de masse avec l'affaire Boulanger. C'est l'explosion de l'anti-parlementarisme au grand jour, l'affaire Boulanger. Fin des années 1880. Vous voyez, dès ce moment-là, et alors, c'est un phénomène qui, du point de vue historique, n'est pas du tout suffisamment pris en considération, parce que, évidemment, aujourd'hui, on a un peu mauvaise conscience à l'égard de cet antiparlementarisme, et ça empêche d'analyser comme il conviendrait, en raison de ce qu'il a donné par la suite. Ça empêche d'analyser la profondeur du phénomène. Et alors, regardez. Toutes les années 1890, c'est une... La Panama, la radicalité anarchiste qui va donner les attentats, elle est directement liée à un antiparlementarisme virulent. C'est un phénomène qui ne date pas des années 20 et 30.
Est-ce que dans l'opinion française, ça... Il y a virulence et puis, on est important du phénomène, est-ce que c'est quelque chose qui est extrêmement répandu ?
Oui, c'est très répandu. C'est une opinion courante. C'est une opinion d'ailleurs sur laquelle se construit en grande partie l'avancée du socialisme comme mouvement démocratique prétendant, chez Jaurès, c'est parfaitement clair, prétendant répondre à cette crise du parlementarisme. Avec nous, vous aurez des vrais députés qui seront une vraie représentation du peuple, à la différence de tous ces groupes qui grenouillent autour du pouvoir et ne songent qu'à leurs propres intérêts. C'est un élément clé de la propagande socialiste dans le moment de formation de la SFIO, par exemple.
On le trouve chez Ferdinand
Peloutier. Ah ben alors là, vous avez les gens les plus radicaux. En la matière, ce sont les anarchistes d'un côté et les syndicalistes révolutionnaires qui vont beaucoup plus loin, eux, puisque le syndicalisme révolutionnaire, c'est la doctrine de la substitution des organisations sociales aux organisations politiques. Il faut carrément les éliminer. C'est ça la doctrine de l'autonomie ouvrière. C'est l'autonomie antipolitique.